Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, votre rendez-vous quotidien avec VOA Afrique en direct de Washington. En votre compagnie, Chérubin Dorcil et Morgane Guériac.
Les grands points de l'actualité, Burkina Faso, la justice va-t-elle rouvrir le dossier Norbert Zongo? La famille du journaliste assassiné en 98 réclame justice.
Oui, absolument. Au niveau du domicile de François Compaoré, il a été retrouvé un certain nombre de documents qui le relient directement à l'affaire Norbert Zongo, constituent des faits nouveaux et autorisent donc la réouverture du dossier.
Prosper Famara, avocat de la famille Zongo.
Au Cameroun, la présidence annonce la libération de 15 Camerounais et un missionnaire polonais enlevé récemment en Centrafrique.
À Dakar, l'Organisation internationale de la francophonie s'apprête à choisir un successeur à Abdou Diouf.
États-Unis, la question raciale et l'impunité au cœur de nouvelles manifestations à Ferguson dans le Missouri. Et nous aurons l'espoir en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, la famille du journaliste Norbert Zongo, dont le meurtre avait été classé sans suite, veut que justice soit faite. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
16 ans après la mort de son père, célèbre journaliste qualifié d'incorruptible, Guy Zongo, son fils, réclame que la lumière soit faite pour le meurtre de son père. En décembre 1998, Norbert Zongo enquêtait sur le meurtre d'un chauffeur de François Compaoré, le frère de l'ex-président, lorsqu'il a été assassiné. Son corps et ceux de ses trois compagnons avaient été retrouvés calcinés dans sa voiture incendiée à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Aucune condamnation n'avait été prononcée, malgré le scandale que cette affaire avait provoqué au Burkina. Le renversement du régime de Blaise Compaoré le 31 octobre dernier va probablement permettre à la famille de Norbert Zongo d'obtenir la réouverture du dossier, sachant que de nouvelles pièces à conviction auraient été découvertes dans la maison de François Compaoré. L'affaire Zongo reste sensible au Burkina Faso. Adama Sagnon, procureur ayant requis un non-lieu dans cette affaire, a été contraint à la démission mardi à la suite de manifestations qui dénonçaient son rôle dans la gestion de l'affaire Zongo.
Sachez aussi que 24 personnes sont mortes et 625 ont été blessées fin octobre dans les émeutes qui ont provoqué la chute du président Blaise Compaoré. Tel est le bilan annoncé aujourd'hui par les experts désignés par le nouveau gouvernement.
Côte d'Ivoire, l'ancien ministre Raphaël Dogbo, un proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été arrêté et c'est ce qu'indique l'AFP qui cite le FPI, principal parti d'opposition.
Lutte contre l'épidémie d'Ebola, l'Union européenne demande à ses pays membres de mobiliser 5000 médecins pour l'Afrique de l'Ouest. Une centaine de soignants nigérians sont attendus dans cette région en fin de semaine. Les précisions de Michel Joseph.
Ces agents de santé nigérians iront en Sierra Leone à la demande express d'assistance du gouvernement de Freetown, a précisé l'ambassadrice nigériane Gladys Akwist Adebeyi. De leur côté, les responsables sierra-léonais de la santé ont fait savoir que les renforts seront déployés dans les provinces de l'Ouest et du Nord, actuellement les plus touchées par le virus Ebola. Par ailleurs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a entamé à Accra, au Ghana, la formation de 150 agents de santé qui seront chargés de combattre l'épidémie dans les trois pays les plus touchés. Pour sa part, la Commission européenne a appelé les pays membres à fournir 5000 médecins et des milliers de soignants en faveur des pays sinistrés. Selon l'AFP, les commissaires à l'aide humanitaire et à la santé de l'Union mènent des contacts en vue de mobiliser cette assistance qui s'ajoutera à l'enveloppe de plus d'1 milliard d'euros qu'entend fournir l'Union contre l'épidémie d'Ebola.
Signalons aussi que la mission onusienne pour l'action d'urgence contre Ebola a ouvert un bureau au Mali qui a enregistré 7 décès dus au virus.
L'armée camerounaise a libéré 16 otages enlevés entre le Cameroun et la Centrafrique au mois de septembre et octobre dernier. C'est ce qu'affirme un communiqué de la présidence. Les ravisseurs des rebelles centrafricains exigeaient la libération d'Abdoulaye Miskine, ancien allié de la rébellion Sédika.
Au Zimbabwe, la vice-présidente Joyce Mujuru a été écartée de l'organe suprême de la ZANU-PF, le parti du président Robert Mugabe. Une décision qui compromet les chances de Mme Mujuru de succéder au chef de l'État, âgé de 90 ans. Jacques Aristide.
L'affaire fait couler beaucoup d'encre dans les médias d'État zimbabwéens, dont The Herald. Ce quotidien publie en ligne ce mercredi une série d'articles attaquant la vice-présidente Mujuru, l'accusant notamment d'ourdir un complot pour assassiner Robert Mugabe à une semaine du congrès de la ZANU-PF. Selon le journal, c'est la branche du parti dans le Mashonaland, la province natale de Madame Mujuru, qui a sanctionné la vice-présidente en annonçant ce mercredi le rejet de sa candidature pour un siège au comité central, l'instance dirigeante de la ZANU-PF. Plusieurs alliés de Madame Mujuru, y compris des ministres, ont également été exclus. Interrogé par Reuters, Wonder Mashange, le président par intérim du comité exécutif provincial, a déclaré que les représentants du parti dans le Mashonaland voulaient se dissocier complètement des personnes qui, d'après lui, s'activaient à destituer le président Mugabe, ce qu'a nié Madame Mujuru. Âgée de 59 ans, la vice-présidente avait les faveurs de Robert Mugabe, qu'il a considéré comme pouvant un jour prendre à la relève, mais tout a changé depuis l'entrée en scène de Grace Mugabe, l'épouse du président, qui a accusé Madame Mujuru de détournement d'argent et de tentative d'imploser le parti. La première dame s'est plutôt rangée dans le camp d'Emerson Mnangagwa, le ministre de la Justice, qui lui également a des visées sur l'après Mugabe. Le sort de Madame Mujuru est désormais entre les mains du président, qui est autorisé en vertu de la constitution de la ZANU-PF à nommer 10 personnes au comité central.
En République démocratique du Congo, 3 casques bleus et un Congolais ont été arrêtés cet après-midi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour détention illégale d'uniformes de l'armée congolaise. C'est ce que dit l'AFP, qui cite des sources officielles. Et toujours au sujet de la RDC, sachez que le médecin congolais Denis Mukwege a reçu le prix Sakharov du Parlement européen pour le combat qu'il mène en faveur des femmes victimes de violences sexuelle.
Et les États-Unis affirment avoir reçu des informations sur de potentielles menaces terroristes à Djibouti. Le département d'État évoque entre autres des risques d'attaques, d'opérations suicides et d'enlèvements. Et Jacob Zuma appelle à un arrêt total de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Le président sud-africain s'est ainsi exprimé lors d'une conférence de presse à Pretoria avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, 78 mineurs qui ont manifesté en faveur du retour de Mohamed Morsi au pouvoir ont été condamnés mercredi à 2 à 5 ans de prison. Ils sont accusés d'appartenir à une organisation terroriste. Rappelons que Mohamed Morsi avait été destitué et arrêté par l'armée le 3 juillet 2013 après une révolte populaire.
Ferguson a connu une deuxième nuit agitée mardi suite à la décision d'une chambre de mise en accusation de ne pas poursuivre le policier blanc qui a tué l'adolescent noir non armé Michael Brown le 9 août dernier dans cette ville de la banlieue de Saint-Louis dans le Missouri. Les précisions de Timothée Dodongmaï.
Plus de 2000 éléments de la garde nationale ont été déployés dans la ville. Selon un correspondant de la VOA sur place, il n'y a pas eu le genre de pillage qu'on a vu lundi soir quand une dizaine de bâtiments ont été incendiés. Des protestataires ont cassé des vitres et mis le feu à un véhicule de la police devant la municipalité de Ferguson. Mais ils se sont dispersés lorsque les forces de l'ordre les ont sommés de quitter les lieux, qualifiant leur rassemblement d'illégal. Tout de même, une quarantaine de personnes ont été arrêtées mardi soir à Ferguson, selon le chef de la police. Parlant pour la première fois en public, le policier blanc Darren Wilson a dit sur ABC TV avoir agi en légitime défense car l'adolescent tentait, selon lui, de lui arracher son arme. Wilson, qui a été placé en congé administratif, a ajouté avoir la conscience claire parce qu'il sait avoir fait correctement son travail. Selon d'autres témoins, Michael Brown avait les mains en l'air pour se rendre quand il a été abattu. Le procureur parle, lui, de contradictions dans les témoignages.
L'ambassadeur russe à l'ONU, Vitali Churkin, a rejeté aujourd'hui l'idée des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine de demander le déploiement de casques bleus, notamment russes, dans cette région. Les autorités de Donetsk disent vouloir prévenir une catastrophe humanitaire. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 4300 morts et 930 000 déplacés depuis son début en avril.
Par ailleurs, le commandant militaire de l'OTAN, le général américain Philip Breedlove, dénonce la présence d'un grand nombre de soldats russes dans l'est de l'Ukraine, où ils appuient les rebelles séparatistes. Moscou a plusieurs fois démenti de telles ces accusations.
Visite du secrétaire d'État américain en Europe la semaine prochaine. John Kerry participera notamment à une réunion de l'OTAN, indique le département d'État. Kerry fera des escales à Bruxelles, Bâle et Londres. Au programme, des discussions sur la lutte contre le groupe État islamique, la situation dans l'est de l'Ukraine et la transition en Afghanistan.
Des centaines de vols ont été annulés ou retardés ce mercredi sur la côte nord-est des États-Unis en raison du mauvais temps. La météo n'a pas prévu beaucoup de neige, mais la pluie qui est tombée en abondance sur Boston, Philadelphie, New York et Washington et devrait se transformer en neige dans la journée a rendu le trajet compliqué pour plus de 46 millions d'Américains qui devaient prendre la route aujourd'hui et demain à l'occasion de la fête de Thanksgiving. Des actions de grâce.
Voilà pour le journal. Chez Robin Dorcil et Morgane Guériac en votre compagnie dans Le Monde aujourd'hui. Restez branchés pour les dossiers du jour. Retour sur l'affaire Norbert Zongo au Burkina Faso.
La justice avait classé le dossier sur le meurtre de ce journaliste en 1998. Il avait été tué alors qu'il enquêtait sur l'assassinat du chauffeur de François Compaoré, frère et conseiller du président déchu Blaise Compaoré. Aujourd'hui, la famille de M. Zongo réclame la réouverture du dossier et leur avocat estime que cette demande est tout à fait acceptable. On écoute Maître Prosper Famara.
Oui, absolument. D'abord, au regard de la volonté politique déclarée par les nouvelles autorités de la transition, pour nous, ça paraît possible. En plus, il faut savoir qu'au niveau du domicile de François Compaoré, il a été retrouvé un certain nombre de documents qui le relient directement à l'affaire Norbert Zongo, constituent des faits nouveaux et autorisent donc la réouverture du dossier. Il faut se rappeler qu'au niveau de la Cour de justice de Arusha, Taboukinabé déjà avait été condamné dans le cadre d'une procédure à réouvrir le dossier à Norbert Zongo. Donc pour nous, tout ça l'un dans l'autre, permettre légalement la réouverture de ce dossier.
François Compaoré avait toujours dit qu'il n'avait aucune relation avec les auteurs présumés de ce meurtre.
La situation et les découvertes qui ont été faites à son domicile démontrent tout à fait le contraire. Notamment qu'on a trouvé à son domicile l'ensemble même des pièces du dossier Norbert Zongo. La totalité des dossiers d'instruction sont retrouvés à son domicile. Et on a retrouvé les procès verbaux donc de filature de Norbert Zongo qui était à son domicile. Au regard de ces constatations, il ne peut plus dire qu'il était lié ni de près ni de loin avec cette affaire.
Norbert Zongo, tué en 1998, ça fait 16 ans. Qui était Norbert Zongo?
C'était un journaliste émérite d'investigation. Chaque mercredi, sortait d'un journal qui s'appelait L'Indépendant, qui est d'ailleurs toujours fonctionnel. Il faisait des révélations très pointues sur les actes du comportement du gouvernement de Blaise Compaoré, et notamment qui avait révélé une affaire qui avait trait donc à la famille du président, notamment à son petit frère, touchait à l'assassinat du chauffeur de François Compaoré et la torture de deux autres domestiques, notamment par des agents de la garde présidentielle, pour une supposée affaire de vol d'argent au détriment de François Compaoré. Et il avait fait une enquête très pointue dans laquelle il avait révélé que François Compaoré donc avait utilisé des éléments de la garde présidentielle pour torturer à mort son chauffeur pour une question supposée de vol d'argent. Et il avait torturé et brûlé deux autres domestiques. Et c'est suite donc à ces révélations-là qu'un soir donc de décembre 98, il a été abattu par des personnes embusquées donc sur la route de Sapui, qui est la route qui menait donc à son ranch. Les armes qui avaient été utilisées à l'époque, selon les enquêteurs, étaient des armes de pointe, donc utilisées essentiellement par les militaires, et qui avaient conduit donc la commission d'enquête indépendante à conclure que, avec d'autres éléments impertinents, que les suspects, il y avait 6 suspects sérieux dans cette affaire, et c'était tous les personnes qui relevaient de la garde présidentielle. Voilà donc comment est partie l'affaire Norbert Zongo.
Et depuis, effectivement, toutes les pistes judiciaires ont été épuisées, jusqu'à même un procureur nommé Adama Sagnon et déclaré au non-lieu à l'époque.
Le procureur Sagnon, à l'époque, avait donc requis un non-lieu au profit de Marcel Cafando, qui était le chef de la garde présidentielle de l'époque, qui avait été impliqué dans l'affaire. Et le juge d'instruction avait suivi le procureur à l'époque et avait ordonné le non-lieu et le dépôt donc du dossier au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Donc depuis lors, on en était là. Et à une reprise au moins, nous avions demandé la réouverture du dossier en produisant des faits nouveaux, notamment des témoignages des jeunes qui attestent qu'ils avaient rencontré à l'époque François Compaoré, avec qui ils avaient eu une conversation qui révélait que François était bel et bien au courant de l'assassinat de Norbert Zango. Les procureurs à l'époque, donc le procureur Sagnon et le procureur Barry, qui était le procureur général à l'époque, ont balayé du revers de la main ces éléments et ont maintenu le non-lieu jusqu'à aujourd'hui.
Il faudrait rappeler, Morgane, que ce même procureur Sagnon, qui vient d'être nommé ministre de la Culture, a été contraint à la démission cette semaine à Ouagadougou, précisément à cause de son rôle dans l'affaire Norbert Zango.
Oui, absolument. Je rappelle que l'interview, c'était au micro d'Idriss Fall, maître Prosper Famara.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La Banque centrale du Nigeria a dévalué le Naira de 8% pour faire face à la baisse des prix du pétrole brut, principal produit d'exportation du pays. La plus importante économie d'Afrique importe 80% de ses biens de consommation. La mesure inquiète les Nigériens donc. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Lagos l'avocat Hassan Silla.
On s'attendait un peu à ça, mais pas dans l'immédiat. Peut-être on avait pensé que ça pouvait arriver en début d'année prochaine, quoi. Mais là, la nouvelle est tombée comme l'épée de Damoclès, quoi.
Quelle est l'incidence de cette mesure aujourd'hui sur le pays?
Oh, si tu veux, c'est vraiment catastrophique parce que tu sais qu'au Nigeria, ici, les produits exportés sont exportés en naira. Mais les produits importés, ils sont importés en dollars. Donc, ce qui fait que le coût devient très, très cher après la dévaluation parce que, alors que je te parle là, tous les commerçants ont stocké leur stock. Et ils veulent plus vendre, ils attendent jusqu'à la nouvelle décision pour voir s'il n'y a pas de changement, ils vont peut-être augmenter les prix sur le marché.
Qu'est-ce que le gouvernement prévoit de faire?
Oh, ben, il n'y a pas d'issue pour le gouvernement actuellement parce que nous sommes d'abord en pleine campagne électorale, ça c'est un. Et puis le prix du pétrole qui va chuter, ça va être vraiment, vraiment difficile. Et puis même pour le gouvernement, ça va être difficile. C'est un gros morceau pour le gouvernement. Donc pour le moment, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines 48 heures.
En cette période électorale, c'est sûrement une décision que l'opposition critique.
Bien sûr. Ils vont s'en servir. Hein.
Est-ce qu'on peut dire que cette décision peut compromettre la campagne électorale du président Jonathan?
D'une manière ou d'une autre. Bon, sur le plan économique, les économistes ont plus d'arguments pour le défendre, mais sur le plan social, je pense que ça va beaucoup affecter sa campagne.
Maître Hassan Silas, avocat à Lagos.
Roger Moutou avec vous. Washington Forum, c'est jeudi, l'impact de la musique dans les sociétés africaines. Laissez-nous vos commentaires sur la page de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur la VOA.
Au Sénégal, les ministres de la francophonie ont commencé leur réunion de préparation du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre à Diam Niadio, près de Dakar. Idriss Fall a joint El Hadj Hamidou Kassé, président du comité scientifique du sommet de la francophonie.
Le samedi et dimanche prochain, nous attendons environ une quarantaine de chefs d'État ou un tout petit peu moins, 25 ministres des Affaires étrangères, représentants des chefs d'État ou de gouvernement, et puis divers autres ministres. Le thème tourne autour des jeunes et des femmes et il est ainsi intitulé « Femmes et jeunes en francophonie ». Vecteur de paix, acteur de développement. Dans le projet du président Macky Sall qui a proposé ce thème à ses homologues de l'espace francophone, la femme et les jeunes constituent les deux piliers essentiels en dehors du rural comme troisième pilier. Mais également, on a remarqué que ces 30 dernières années, les femmes et les jeunes ont été au cœur de plusieurs mutations politiques, de façon positive ou négative, parce qu'ils ont un potentiel extraordinaire qui, s'il n'est pas utilisé, peut se transformer en une force de déstabilisation qui provoque des conflits, provoque des crises. Et de ce point de vue, nous avons pensé qu'il fallait articuler jeunes et femmes avec les problématiques de paix et de développement. Parce que si Les femmes et les jeunes ne sont pas satisfaits. Ils sont des forces de déstabilisation.
Ce sommet se tient juste après la révolution au Burkina Faso où les jeunes ont ouvertement remis en question ces changements de constitution.
La question du Burkina va être évidemment abordée, mais dans le sens de se féliciter du fait que la transition s'est opérée sans violence. Et d'autre part, c'est d'encourager les nouvelles autorités, notamment le président et le premier ministre, donc de les encourager à assurer une transition en douceur qui permette au Burkina Faso de retrouver une vie constitutionnelle normale et au peuple burkinabé de continuer sa bataille pour le développement qui est en réalité la seule bataille qui vaille.
Bien sûr, la question sur toutes les lèvres, qui est le prochain remplaçant pour Abdou Diouf?
Pour le moment, il y a 5 candidats qui se sont déclarés officiellement. Il s'agit de Michael Jean du Canada, Jean-Claude Lestrade de l'île Maurice, de Henri Lopez de la République du Congo, de Pierre Dioya, ancien président du Burundi, et de l'Équateur-Guinée. 4 à 5 candidats qui se sont déclarés. Évidemment, dans l'histoire des secrétaires généraux, l'OIF procède en général par consensus. Le président Sall, en tant que président du pays hôte de ce sommet, travaille pour qu'il y ait un consensus et que le 15e sommet sorte avec un secrétaire général ou une secrétaire générale qui remplit les conditions nécessaires pour la prise en charge des nouveaux enjeux et défis dans l'espace francophone et dans le monde.
Voilà, c'était Ladj Hamidou Kassé, président du comité scientifique du sommet de la francophonie au Sénégal.
La page sport avec Timothée Donangmaï. Salut Timothée.
Bonsoir Gabi.
Parlons de football européen, suite de la 5e journée de la phase de groupe en Ligue des Champions, avec pour plusieurs clubs une chance d'accéder en 8e de finale.
Et oui Gabi, il faut rappeler qu'hier Chelsea a validé son billet pour le 8e, tout comme Shakhtar Donetsk malgré sa défaite 1-0 face à Atlético. Alors ce soir dans le groupe A, Atlético Madrid affronte Olympiakos et Malmo joue contre Juventus. Le club italien est à l'abri d'une mauvaise surprise, mais tout reste possible pour chacun des 3 autres clubs. Dans le groupe B, Bâle reçoit Real Madrid, déjà qualifié, et Lugoretz offre l'hospitalité à Liverpool. Situation bien précaire pour Lugoretz. Et dans le groupe C, FC Zenit contre Benfica, et Bayer Leverkusen contre AS Monaco, Leverkusen est en bonne posture et se contenterait d'un nul. Et dans le groupe D, Arsenal joue contre Borussia Dortmund, déjà qualifié, et Anderlecht accueille Galatasaray.
Quelques résultats des matchs du championnat nord-américain de basketball disputés hier soir. Mauvaise nouvelle pour Miami?
Mauvaise nouvelle, Miami qui s'est incliné face à Golden State, 97-114. Victoire pour Denver contre Chicago, 114-109. Victoire également pour Milwaukee contre Détroit, 98-86. La Nouvelle-Orléans tenue en échec sur son parquet par Sacramento, 89-99. Et une nouvelle qui vous fera plaisir, Gabi, Washington qui poursuit sa belle saison, battant Atlanta hier soir, 102-106.
Et ce qui plaira surtout, il faut le dire, à notre ami Lionel Gaïma,
voilà,
qui est un fan fou de Washington.
Et voilà, c'est l'heure de notre page musicale. Alors on écoute Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing.
Cindy, mama, you understand that? Yeah. Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien, chévere. You understand that?
Bien chévere.
Chévere?
Bien chévere.
Is that right, mama?
Yeah,
because I got my shaking room on the little friend.
Everybody's got a thing. Just taking the things not worth having, but
Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing.
Ne vous en faites pas, Stevie. Oui, il faut signaler, Morgane, que cette semaine, le président américain Barack Obama l'a honoré parce que le chanteur a reçu la médaille de la liberté, qui est la plus haute distinction civile américaine. Et Obama a raconté que l'album Talking Book était le premier qu'il ait jamais acheté. Et on cite le président, j'avais 10 ans, peut-être 11, je l'ai acheté avec mon argent de poche. Je n'en avais pas beaucoup, et ce qui définit vraiment la musique de Stevie est la chaleur et l'humanité qui résonnent dans chaque note. Certaines de ses chansons nous ont aidés à tomber amoureux, a dit Barack Obama. Ce qui est vrai.
Plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Visitez notre site internet, mais aussi écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. C'est la fin de cette édition, Morgane.
Oui, on vous souhaite de passer une bonne soirée. Au micro, c'était Morgane Guiriec.
Et chez Romain Dorcil, pourquoi ne pas dire merci d'une façon spéciale à Michel Joseph qui a dirigé la mise en onde et Brian Marcoulier qui était à la console technique.